L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette? Pas grand chose.
Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strate comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la
moutarde. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Dans cette émission, on épluche, on décortique, on répertorie toutes les saveurs de la littérature. Et pour m'accompagner dans cette cuisine littéraire, j'ai la chance d'avoir autour de moi cinq autrices occitanes qui vont parler de leurs ouvrages. Et nous découvrirons, très certainement tous ensemble, une émulsion nouvelle. On écoute, elles épluchent les livres.
S'il y a une chose qui me manque, c'est bien les joies de la cuisine.
Je suis entourée de Gaëlle Dedecker, Magali Milo, Azadeh, Pascal Battistelli et de Noélie Sanchez. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bienvenue autour de cette table. Merci d'être présentes. Commençons ensemble notre recette, notre décoction avec Madame Dedecker, Gaëlle de votre prénom. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous avez écrit un livre aux éditions RS.
Oui.
Mais vous n'êtes pas autrice de métier, vous êtes psychologue.
C'est ça, mais j'écris depuis longtemps. En fait, j'ai commencé à écrire en 2008 exactement. Et oui. J'ai publié un premier livre en 2015. Et puis là, 10 ans plus tard, donc j'ai mis du temps, mais j'ai écrit tout ce temps pour... En fait, je tiens un journal et qui m'accompagne entre mes séances, entre mes journées. Et ça a donné lieu à un journal d'une mère à l'envers.
Donc, qui est paru quand ?
Et qui est paru en mai 2025.
Très bien. Donc, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de votre ouvrage ?
Bah, disons que c'est une expérience à la fois de femme, de mère, de professionnelle, je dirais ça comme ça. Et cette difficulté qu'on a sans doute beaucoup à accumuler tous ces rôles. Et je me suis dit que moi j'avais les mots, peut-être pour le dire, comme, et à la fois c'était mes mots, j'avais je pense besoin d'en faire plus qu'un témoignage, mais plutôt d'écrire, puisque c'est ce que je fais depuis longtemps et que j'aime ça. Et maintenant qu'il est sorti, j'ai beaucoup, beaucoup de témoignages quand même de personnes qui s'y sont retrouvées, même si c'est un récit très personnel et intime. Je pense que ça peut toucher beaucoup de personnes qui se cherchent finalement à... Je pense qu'on a tendance à nous mettre dans des cases et que l'identité des personnes et les parcours sont beaucoup plus variés que ça. Et je crois que j'avais envie de montrer qu'en écrivant, là, on peut être psy et écrire, on peut être mère et être psy et être autrice. Et que finalement, c'est ça qui nous pousse, c'est ça qui donne de l'élan.
On nous met dans des cases, plus particulièrement quand on est une femme, vous pensez ?
Je ne suis pas sûre que ce soit particulier aux femmes, c'est plus difficile d'en sortir, peut-être.
D'accord.
Parce qu'on a ce rôle de, en tout cas dans mon cas, et c'est aussi le contenu de ce livre, quand on a plusieurs enfants, ce qui est mon cas, ça devient quand même vraiment difficile de combiner et d'avoir une trajectoire très personnelle. Et quand on écrit, enfin, quel que soit l'art d'ailleurs, je crois que c'est très très prenant. Là, il n'y a plus de limite. Le jour, la nuit, tout le temps, c'est un peu là. Et que quand on a la charge d'enfant, oui, ça a des conséquences. Et c'est un peu ça aussi quand même le livre, de dire que j'ai fait des choix et que ces choix ont eu des conséquences.
Donc vous dites que ça, la parution de votre livre a permis des retours patients, d'autres témoignages, des discussions, je présume. Est-ce qu'il y a eu aussi des retours professionnels ?
Bah, disons que mes collègues analystes et psychologues, c'est toujours un peu plus délicat parce que eux aussi, je pense, ils aiment les cases. Et que quand on publie chez RS, qui est un éditeur de sciences humaines, on s'attend à lire un livre de psychologie écrit par une psychologue. Et il se trouve que ce n'est pas ce que j'ai fait. Donc ça, et en France, je crois qu'on aime bien les cases,
oui,
y compris
oui,
dans l'édition.
Voir où on va. Ouais.
Et moi, ce que j'aime, c'est de, justement de décloisonner et de faire se croiser les univers, ceux que je traverse, ceux que je connais bien. Et je crois que c'est possible. Et l'éditeur m'a fait confiance et j'ai eu cette chance de pouvoir publier ce livre.
Vous avez eu ce courage. Bravo à vous. Je fais le lien donc avec Magali Milo qui est présente à côté de vous. Donc vous avez écrit mon Burnout en blouse blanche aux éditions L'Archipel. Là aussi, il y a un lien entre le témoignage et le vécu professionnel. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, j'ai écrit ce livre un petit peu pour alerter déjà sur le burn-out chez les soignants, parce que c'est vrai que c'est assez tabou comme sujet, encore plus chez les médecins, parce que sûr que être médecin et être malade, ça va pas ensemble. Donc il y a beaucoup de tabous sur ce sujet-là. Et puis j'ai écrit après le burn-out, une fois que j'étais un petit peu mieux, parce que pendant, c'était pas possible, tout simplement. Et j'ai relaté un petit peu ce qui s'est passé donc 3 ans avant mon arrêt et après la reconstruction, 3 ans après. Donc j'ai détaillé un petit peu certaines choses de ma vie professionnelle, un petit peu les patients, comment les relations se créent, et après la surcharge aussi émotionnelle qu'il peut y avoir à absorber quand on est soignant. Donc j'ai voulu partager ça et essayer par là donc d'alerter, mais aussi d'aider les personnes qui traversent un burn-out et leur dire qu'on peut s'en sortir aussi après.
Est-ce que vous avez constaté, comme Gaëlle de Decker, que votre ouvrage a eu une incidence sur la vie de ses lecteurs, pardon ?
Oui, c'est vrai que j'ai été touchée parce que j'ai eu des témoignages de médecins notamment. Plutôt des femmes d'ailleurs pour l'instant, mais qui me relataient en fait qu'elles étaient un peu au bout et que finalement de lire que quelqu'un était passé par là, ça les a fait réaliser qu'elles étaient vraiment pas bien et qu'elles avaient besoin de prendre soin d'elles. En fait, j'ai eu plutôt ce type de retour, et puis j'ai aussi des retours de personnes qui sont pas du tout professionnelles de la santé, mais qui ont aussi vécu un burn-out et qui ont réussi à se reconnaître aussi dans les symptômes, dans un peu aussi un fait de société maintenant. Donc c'est vrai que la surcharge de travail, elle peut être aussi dans d'autres professions, et ça m'a touchée quand même que ces personnes me témoignent leur affection et le fait qu'elles se soient retrouvées dans leur lecture.
Et de manière professionnelle, avec des collègues que vous connaissez peut-être ou avec qui vous avez tissé des liens dans votre carrière ?
Oui, les collègues, effectivement, ils sont assez, un peu fiers en se disant que c'est bien que j'arrive à en parler, parce qu'ils me disent « t'es courageuse ». En gros, comme c'est un peu difficile dans le milieu d'en parler, c'est « oui, t'as eu le courage de faire ça ». Donc, plutôt ce genre de retour. Et puis, j'ai animé une fois aussi une réunion avec des soignants. Mmh. Et en fait, j'ai été étonnée par le nombre de questions, finalement, que j'ai eues à la fin de cette petite réunion où je parlais du livre et du burn-out. Et oui, en fait, ça touche vraiment beaucoup de monde. Et je pense que c'est très important d'en parler.
Mmh. Vous intervenez, Gaëlle de Decker, auprès de soignants
J'ai travaillé pendant 20 ans à l'hôpital, donc ça a été mon milieu professionnel où j'ai beaucoup travaillé avec les équipes et notamment avec les médecins. Et aujourd'hui, dans mon cabinet, je reçois beaucoup de médecins qui décrivent exactement ce que Magali raconte et ce que j'ai aussi traversé, c'est-à-dire ce mur qu'on voit arriver, on le sent, on est dans cette incapacité à s'auto-réguler, à s'arrêter, parce que c'est difficile de lâcher la barre quand on est du côté des soignants. Et c'est ce que je travaille avec elles, c'est qu'elles aussi, elles sont médecins, mais elles ont le droit et elles ont peut-être même l'obligation de faire attention, parce que quand on prend le mur en tant que médecin, ça a aussi d'autres conséquences encore. Mais c'est très difficile, elles ne s'autorisent pas, c'est ce que j'entends tout le temps. C'est le corps qui dit non, mais la tête a du mal à suivre.
Vous confirmez, Magali Milo ?
Oui, il y a beaucoup, beaucoup de déni, en fait, parce qu'on n'a pas envie, déjà, on n'a pas envie de se dire ça nous arrive à nous. Et puis après, on se dit non, mais on ne peut pas arrêter, on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas assez de médecins, on va laisser nos patients. Enfin, il y a toute une espèce de culpabilité assez énorme qui fait qu'on tient, on tient, on tient, jusqu'au moment donné où, effectivement, c'est le corps qui craque complètement et là, on est obligé de s'arrêter. Mmh. Mais c'est vrai que ce serait mieux.
Mais c'est difficile, c'est pour ça que l'accompagnement est intéressant. C'est que on peut aider quand même à autoriser du coup la personne à prendre en compte ce qu'elle ressent, parce que j'ai encore une femme médecin qui me disait hier, j'avais des vertiges, j'avais mal à la tête, donc elle sentait que c'était trop. Et pourtant,
il y a ce qu'on sait et ce qu'on accepte. Oui, oui. Vous parliez de courage, Magali Milo, ça me permet tout à fait aisément de rebondir et de présenter, donc de laisser se présenter notre troisième invité, donc Azadeh, bienvenue.
Oh, bonjour. Alors, moi, ce n'est pas du tout la même chose.
Non, mais on parle de courage, on parle de témoignage et de vécu.
Voilà. Alors, je suis d'origine iranienne. Et enfant, quand j'avais 6 ans, j'ai perdu un petit frère qui avait 2 ans et demi. Et ce trauma m'est resté jusqu'à l'âge de très avancé. Et pendant le Covid, dans le silence universel, j'ai décidé de mettre de l'ordre dans mes notes. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Une enfance persane ». Et il se trouve que ça a eu du succès. Et donc, on m'a encouragée de faire la suite. J'ai écrit la suite. C'est une jeunesse persane. Donc, je témoigne de ma vie de jeune fille en Iran avant la révolution et l'arrivée de la révolution. Et ça a continué. Ça, c'était en 2024, premier 2022, le deuxième 2024. Et donc, j'écris le troisième, parce que j'avais promis une trilogie qui s'appelle L'Exilé. Donc, c'est la suite de ma vie, une fois qu'on a complètement fini avec l'Iran. Et puis, ben voilà. Et puis, j'ai décidé aussi de faire un petit un recueil de poésie. Ça aussi, et c'est une manière de militer, en fait, pour moi. Je fais savoir au monde ce que vit le peuple iranien. J'ai le privilège de vivre en France depuis maintenant 50 ans. Mais les autres souffrent terriblement. Et je porte la voix des Iraniens au monde. J'essaie de le faire entendre. Et d'où le pseudo que j'emploie,
oui,
qui s'appelle Femme libre. Azadeh, ça veut dire femme libre. J'ai décidé d'écrire avec un pseudonyme pour me mettre à l'abri d'éventuelles représailles.
Donc, de courage, comme nous le disions. Une question peut-être un peu pointue, vous allez me dire si c'est OK pour vous d'y répondre. En quoi l'écriture a su être le réceptacle ou l'écrin de votre expérience de vie? Pourquoi l'écriture et pas une autre forme d'art?
Parce que je ne connais pas d'autre forme d'art. Je ne sais pas peindre, écrire ou bien chanter ou faire de la musique. Et de plus, je pense que, enfin, je suis face à une psy, je pense que l'écriture, c'est quand même une thérapie très profitable.
Oui.
Et avant d'écrire le livre que j'ai écrit en 2022, Une enfance, quand je parlais de cet événement, je pleurais pendant toute ma vie. Et depuis, au début aussi, quand je présentais le livre un peu, et depuis, c'est devenu banal. Donc, voilà.
Ça vous a permis de vivre avec, c'est ça, quand vous dites
de l'évacuer, d'enfermer la douleur peut-être dans un livre. Et aussi, l'écriture aide aussi, ça laisse une trace. Et les gens peuvent lire, nos enfants, ceux qui restent, les gens qui ignorent la réalité, les jeunes qui lisent mon livre, Une jeunesse persane, ils viennent me dire, mais c'est pas possible, c'était comme ça l'Iran. Et oui. Et regardez ce que c'est devenu.
Magali Milo, vous rejoignez Azadeh sur cette écriture-thérapie?
Sur l'écriture-thérapie, ben, disons que moi, oui, mais ce n'était pas sur ce roman-là. Sur ce récit, c'est plutôt sur un premier roman où, effectivement, j'ai évacué un petit peu tout ce que j'avais comme émotion et j'ai retrouvé la liberté. Voilà, donc c'était sur mon premier roman qui était un roman fiction, Immortel ADN qui s'appelle. Et sur le burn-out, c'était plus une réflexion, en fait, sur le burn-out que j'ai vécu et je l'ai écrit quand j'allais mieux. Mais effectivement, au départ, l'écriture a été aussi une sorte de thérapie pour moi, mais sur quelque chose de plus fictif. Oui,
oui, Azadeh.
Oui, en effet, moi aussi. C'est le premier livre que je considère vraiment comme une thérapie. Bon, après, on continue, comme dans toutes les thérapies. Mais le deuxième, c'est plus récit de vie, carnet de voyage, témoignage, etc. Et après, on a du mal à s'arrêter, enfin, pour ce qui me concerne.
Et donc, vous avez des retours de proches ou d'amis sur vos écrits?
Oui, très positif. Je suis vraiment très fière.
Félicitations. Bravo. Merci. Nous arrivons donc au moment de la pause et je vous laisse écouter notre musique du jour. You can blow up, you can cry, keep the flame in your eye. Ooh, you're no maniac girl, passion isn't a disease, don't go down on your knees. Ooh, you're no maniac girl. I know you're not the person you wanna be, I know you're dead to bear your fragility, I know you know our invisibility could last an eternity. Vous écoutez Les Pluches Libres, je suis en compagnie de cinq autrices occitanes qui décortiquent et qui épluchent les livres au féminin. Nous avons parlé témoignages, nous avons parlé récits de vie, récits professionnels, accueil et accompagnement en première partie d'émission. Maintenant, nous allons aborder certainement d'autres sujets puisque la voix sera donnée à deux nouvelles autrices. Pascale Battistelli, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci de me recevoir.
Vous êtes autrice, mais pas que. Vous accompagnez aussi d'autres auteurs sur le chemin de l'écriture?
Tout à fait. Je fais ça depuis 2020 maintenant. En fait, l'idée, c'est d'accompagner dans les premiers pas de l'édition les personnes, les auteurs ou les particuliers qui ont un projet d'écriture, vers soit l'édition, soit l'aboutissement d'un projet qui n'est pas forcément édité hein, d'ailleurs, qui est juste intrafamilial. Mais l'idée, c'est voilà, d'accompagner pour leur permettre d'être autonomes et de voler de leurs propres ailes après.
En tant qu'autrice, vous écrivez des poèmes, vous écrivez aussi des fictions.
Oui, alors moi j'ai commencé par la poésie, donc tout à l'heure on parlait d'écriture un peu thérapeutique, et effectivement j'ai commencé par la poésie quand j'étais ado, et donc même un petit peu avant, donc j'ai beaucoup écrit, y a beaucoup de choses ont été jetées, parce que j'étais une grande adepte de la feuille volante, voilà, mais c'est très poétique la feuille volante, c'est-à-dire que des fois on en retrouve coincé sous un matelas, ou, enfin voilà, c'est très, très étrange, et on se dit, oh mais j'écris ça, mais en fait c'était pas si mauvais.
Oui, et puis ça peut correspondre à qui on est aujourd'hui, c'est ça, finalement. Voilà.
Donc c'est hyper intéressant. Et en même temps, j'ai les pensées poétiques, puisque au départ j'écrivais qu'en versification, et les pensées poétiques m'ont permis de passer sur le roman et de passer sur une écriture. Et c'est comme ça qu'est né Rêve arythmique.
Donc vous publiez passer aux éditions Tapuscrit.
Oui. Alors, oui, Tapuscrit, qui était à Montpellier et qui a eu aussi une librairie. Et donc, François Millet, hein, qui est quand même connu sur Montpellier. Donc, pendant le confinement, a plié boutique, hein, puisque le confinement a eu raison de beaucoup de commerces, hein, malheureusement. Et donc, pour donner une seconde vie à ce livre qui était quand même sollicité, j'ai créé Églantine Éditions et pour l'instant, je m'auto-édite pour faire vivre ce petit livre.
On trouve des solutions afin d'exister et c'est tout à fait normal.
Oui.
Oui, oui. Comment votre vécu s'inscrit-il dans vos œuvres, hein, puisque vous passez uniquement par la fiction, si je ne me trompe pas?
Oui, fiction, et en même temps, c'est... j'aime bien parler d'alchimie. Je pense qu'on est l'auteur, on est un peu alchimiste de nos émotions, de nos expériences de vie et de nos valeurs. Et tout ça, en fait, on le retranscrit, je pense, naturellement dans nos ouvrages. Et c'est faire en sorte qu'il y ait suffisamment de décalage pour qu'on ait l'impression que ce soit une fiction. En réalité, pour les personnes qui me connaissent, il y en a qui me disent « Ah, mais je te retrouve dans ton roman et tout », alors que moi, j'ai l'impression de me livrer davantage dans la poésie, à contrario, c'est bizarre. Et donc, il y a forcément, quand on écrit, même si on écrit de la fiction, il y a toujours, toujours, toujours de nous. On est notre propre matière brute.
Effectivement, c'est très beau la manière dont vous le dites, être l'alchimiste de sa vie finalement et de pouvoir en présenter un objet abouti, finalement un objet intemporel, hein,
oui,
au public.
Oui, c'est laisser une trace et en même temps c'est digérer quelque chose et de l'inscrire dans le temps ou dans l'intemporel d'ailleurs. Et en même temps, quand on relit avec le recul, on se dit... celui-là, je ne veux plus le voir, ou alors, c'est terminé. Je pense que le plus grand danger, finalement, c'est de tomber amoureux de ses premières versions.
Alors, l'alchimie se trouve dans l'écriture, se trouve dans le récit de vie, mais peut se trouver aussi dans d'autres formes d'art, ce qui me permet d'introduire donc Noélie Sanchis. Bonjour Noélie.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, vous avez écrit deux romans de danse. De danse, parce que vous êtes aussi danseuse. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre travail?
Alors, je m'appelle Noélie Sanchis, je suis professeure de danse. J'ai fait beaucoup de scènes avant, j'ai fait des écoles de danse à Montpellier, à Toulouse. Et ensuite, quand il y a eu le Covid, que je ne pouvais plus du tout danser, j'étais malheureuse. Donc du coup, j'ai commencé à écrire une romance de danse qui se passe à Noël, avec un personnage, c'est une costumière, dans une compagnie de danse à Londres. Et en fait, son rêve, c'est de devenir danseuse. Et voilà, elle va passer une audition de danse et voilà, enfin, elle va vivre ses rêves. Et du coup, j'ai eu l'impression pendant 3 mois que j'ai écrit ce livre de danser. Voilà. Après, tout ce qui est l'histoire du Covid est passé. On va dire que la vie est redevenue normale. Et du coup, j'ai pu enfin trouver du travail dans le milieu de la danse. Et du coup, ben, j'étais professeure de danse. J'ai enseigné pendant... Là, ça fait 5 ans que j'enseigne. Voilà. Et du coup, un jour, on devait préparer un gala d'hiver de danse. Et du coup, je me suis tournée sur la peinture. Donc, sur Edgar Degas, un peintre du 19e siècle qui peignait beaucoup de danseuses à l'Opéra de Paris. Et du coup, ça m'a beaucoup inspirée pour mon nouveau roman et pour aussi mon spectacle de danse. Et du coup, bon, j'ai commencé avec mes danseuses des répétitions. Elles faisaient beaucoup de danse à la barre, un peu comme les tableaux de Edgar Degas. Et du coup, ça m'a inspirée pour une nouvelle romance de danse, donc un ballet de toile et d'étoiles.
Et donc c'était parti, vous êtes publié aux éditions Vérone.
Oui.
Et donc si j'ai bien compris dans ce que vous expliquez, l'écriture vous a permis de danser par procuration au départ. C'est comme ça que cet amour est né.
C'est exactement ça, ouais.
Est-ce que c'est un sentiment qui continue ou est-ce que vous trouvez autre chose aujourd'hui dans l'écriture ?
Je reste encore dans la danse pour l'instant. Et là,
ce sentiment de procuration, je veux dire, de garder... l'écriture comme exutoire, quand on est frustré ou quand est-ce que c'est ou est-ce que vous mettez une autre intention dans votre écriture émotionnellement parlant?
Oui, je mets une autre intention. En fait, c'est que j'ai pris vraiment goût à l'écriture, j'ai vraiment aimé et du coup, j'ai voulu continuer pour mon plaisir personnel en fait. Voilà.
Et vous avez pris un rythme d'écriture, c'est quelque chose que vous gardez proche de vous?
Oui, souvent j'écris le matin et après l'après-midi ou en fin de journée, je donne mes cours de danse. Donc voilà.
Très bien. Et est-ce que vous avez des retours de la part de vos lecteurs, professionnels ou amicaux ou familiaux ?
Oui, j'en ai eu quelques-uns. J'ai eu des bons retours. Dans l'ensemble, tout le monde aime bien. Pour mon deuxième roman, ce qui est marrant, c'est que personne ne s'attendait à la fin.
Ah oui ?
Oui.
C'est vrai que nous aussi, ça nous a surpris à la librairie.
Oui, à chaque fois, j'ai eu des versions différentes. Ah, je pensais que ça allait finir comme ça. Après, quelqu'un d'autre me dit autre chose. Donc du coup, je suis assez surprise, mais agréablement surprise, donc voilà.
Dans vos deux romans, les choses se passent plutôt bien. Ce sont des romans quand même qu'on referme en ayant le sourire. Oui. C'est quelque chose qui est important pour vous ?
J'aime bien les histoires heureuses, enfin les fins heureuses, quoi.
Oui.
Donc, puis je pense que ça apporte aussi du baume au cœur. Oui. On en a vraiment besoin, en fait. On a besoin de belles choses.
Pascal Battistelli, vous vouliez rebondir sur ces fins heureuses ?
Ah oui, moi je suis une grande adepte des fins heureuses. Voilà, je pense qu'il faut nourrir le monde de poésie, de gaieté, de grains de folie et de couleurs et de danse, parce qu'on en a bien besoin.
On en a bien besoin, c'est vrai. Nous arrivons, en parlant de fin, à la fin de cette première émission qui nous réunit toutes les 6. C'est incroyable, toutes les 7, si on compte Alice, qui est à la régie. Merci Alice. Je profite donc d'avoir le dernier mot, le mot de la fin, pour annoncer que vous serez présentes, donc Gaëlle Dedecker, Magali Milo,
Azadé.
Pascal Battistelli et Noélie Sanchez à la librairie pour un mini-salon qu'on organise pour la 3e fois cette année. On est très contentes, qui est un salon qui met en avant les talents des autrices occitanes. Donc qui s'appelle « Elles épluchent les livres » et ça sera samedi 25 avril de 15h à 19h à la librairie. Et plein de surprises vous attendent à ce moment-là, ça va être vraiment assez fantastique. Merci chers auditeurs et à la semaine prochaine sur l'épluche livre.
L'épluche livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que vaut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange
des cornichons, de la moutarde, du pain et beurre.